Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des signaux faibles avec trois invités, Raphaël Elouz.
Bonjour.
Wojtek Sochaki.
Bonjour.
Et Nicolas Rodriguez.
Bonjour.
Pour discuter avec eux, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Et Vladimir Collat.
Bonjour.
Alors Raphaël, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Donc moi je suis Raphaël Elouz et je suis responsable de l'équipe CERT Hermès. Donc j'ai créé l'équipe il y a 3 ans et donc l'équipe a une double casquette SOC et CERT. Donc toute la chaîne de détection et réponse aux incidents.
Wojtek ?
Oui, donc moi je suis analyste Wojtek Sochaki, analyste au SOC CERT de Hermès. J'ai rejoint l'équipe de Raphaël il y a maintenant 3 ans et je m'occupe plus particulièrement de la détection.
Nicolas ?
Oui, moi c'est pareil depuis 3 ans dans l'équipe de Raphaël et je suis dans la partie tooling build du CERT.
Donc aujourd'hui nous allons parler des signaux faibles, mais qu'est-ce qu'un signal faible ?
Alors, le signal faible c'est un framework de détection qui vise à optimiser ses capacités de détection, donc sa posture, tout en limitant au minimum les faux positifs. Autrement dit, l'objectif, c'est qu'il nous permette d'avoir un maximum de règles de détection en parallèle, tout en réduisant au minimum le bruit et la charge inutile pour les analystes. Alors, avant de préciser en fait comment le modèle de Weak Signal fonctionne, je pense que c'est intéressant de parler du modèle de détection traditionnel et de ses limites. Donc, traditionnellement, les SOC, la plupart des SOC aujourd'hui utilisent un modèle de détection qu'on pourrait appeler 1 pour 1. Le modèle 1 pour 1, en fait, concrètement, c'est on met des règles de détection et à chaque fois que ces règles matchent avec un événement ou un ensemble d'événements dans notre infrastructure, dans notre système d'information, on va en générer une alerte. Et cette alerte, elle va être analysée par des êtres humains, les analystes de SOC. Et en fait, c'est là la base du problème. Quand on crée sa posture de détection, quand on travaille sur ses règles de détection, on a des centaines, des milliers de concepts de détection qui sont très intéressants et très efficaces pour détecter des attaques réelles, mais qui malheureusement détectent et génèrent aussi beaucoup de faux positifs. C'est-à-dire que ça a généré des alertes sur des comportements légitimes et normaux de notre environnement. Et donc c'est là le fond du problème, c'est que les analystes, enfin les personnes qui créent les concepts de détection vont être constamment entre le marteau et l'enclume pour rajouter, augmenter les capacités de détection, augmenter la posture et garder un nombre d'alertes qui est raisonnable pour ces analystes.
Là, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement le modèle de détection par signature ne fonctionnerait pas. Donc les antivirus, les WAF, tout ça, les IPS qui fonctionnent par signature, finalement ça ne marcherait pas. Je dis ça avec beaucoup d'ironie.
Alors là, c'est encore un autre problème. On parle, et c'est un sujet très intéressant, où on va faire... En fait, les règles de détection, on a 2 types de règles de détection, et plus on va dans une règle qui est précise, qui va être justement par une signature, ou même le fond du fond, c'est des IOC, on va avoir un H, bah ok, un H, il va te donner 0 faux positif, mais à côté de ça, il va être extrêmement facile à bypasser pour un attaquant. Et plus tu vas aller dans des règles larges, comportementales et très larges, où tu vas dire je veux détecter des injections entre 2 process, n'importe quelle persistance dans mon système d'information, et plus ça va te générer beaucoup beaucoup de bruit, parce que c'est des comportements qui sont utilisés par tous les attaquants, mais qui sont aussi utilisés par les administrateurs et les utilisateurs pour des usages normaux. Et en fait, c'est là...
Ouais, c'est trop fin contournable, trop large, détecte pas assez ou faux positif.
Et en fait, justement, l'idée du weak signal, c'est de répondre à cette problématique en ayant le meilleur des 2 mondes. Et en fait, on va garder les alertes et les règles qui sont vraiment efficaces dans un modèle 1 pour 1, celles qui génèrent peu de faux positifs. Et à côté de ça, on va ajouter toutes les règles qu'on ne peut pas mettre dans un modèle 1 pour 1, qui sont juste souvent, la plupart du temps, supprimées, en fait, et les équipes de détection acceptent de fermer les yeux sur ces comportements parce qu'ils sont trop larges et qui génèrent trop de faux positifs. Et nous, on va les mettre dans ce modèle de Weak Signal, et en fait, au lieu de générer des alertes, on va en générer des signaux faibles. Ces signaux faibles, c'est tout simplement des événements qui sont stockés dans un SIEM, dans une base de données, importe. Et ces événements, ils sont corrélés entre eux. Ils ne sont pas analysés un par un, unitairement, mais ils sont corrélés entre eux pour identifier non pas un événement unique, unitaire, mais un ensemble d'événements suspects liés à une même entité. Une entité, dans un système d'information, ça va être une machine ou un utilisateur. Et donc, en fait, on va prendre des plages horaires et on va dire « je veux identifier un ensemble d'événements suspects sur un temps donné, sur une machine ou un utilisateur ». Et ça, ça va permettre à la fois de conserver la visibilité sur tous ces signaux faibles, ces événements qui génèrent beaucoup de faux positifs, sans tous les analyser, et du coup d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Et à côté de ça, en plus de ça, les alertes qu'il va générer, elles vont être très contextualisées parce qu'on va avoir pas un seul comportement, mais on va avoir 5, 10 comportements qui vont nous raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé dans cette alerte. Et au-delà de ça, on peut aussi utiliser ces signaux faibles pour enrichir les alertes qui sont générées par les règles 1 pour 1. Et donc, ça va nous permettre de rajouter du contexte pour les analystes et donc de les aider dans leur analyse. Alors, ce modèle, il est extrêmement efficace. Par contre, il a un gros prérequis. C'est qu'il nécessite d'avoir beaucoup, beaucoup de règles en entrée pour être efficace. Et il apporte aussi plusieurs challenges. Il n'est pas forcément évident à mettre en place, donc on pourra vous en parler par la suite.
Alors justement, est-ce que ça se gère avec le même matériel ou il faut, du matériel spécifique et des process spécifiques ?
C'est vraiment le même matériel. En fait, on va toujours se retrouver sur la solution principale d'une équipe SOC, c'est le SIEM, où on va retrouver tous nos logs. Et en fait, je vais laisser peut-être Wojtek et Nicolas préciser le fonctionnement. Mais globalement, on s'appuie sur exactement la même solution, c'est juste qu'on va rajouter un peu de développement custom qui va être expliqué là par la suite.
Oui, merci Raphaël. Effectivement, pour la partie fonctionnelle, chez nous, on a du détection as code, donc c'est très à la mode et c'est aussi très puissant. Donc chacune de nos règles, que ce soit du coup dans le modèle weak signal ou le modèle classique, va avoir un fichier au format YAML avec un ensemble d'informations techniques composant la règle, le titre, les mitres attaques, potentiellement bien sûr la logique de détection. Je vais pas tous les détailler, mais du coup dans le modèle weak signal, on va juste rajouter quelques champs supplémentaires qui vont être importants pour que le modèle fonctionne, notamment donc les fameuses entités sur lesquelles la corrélation va se faire. Raphaël l'a dit, que ce soit nom d'hôte, IP ou encore utilisateur. Un score de risque qui va être finalement va représenter le poids de la règle unitaire de weak signal ou signal faible au sein du modèle plus global. Et aussi des champs dédiés aux signaux faibles qui permettent de résoudre certains challenges qu'on a. On pourra l'expliquer peut-être par la suite. Donc voilà, d'un point de vue fonctionnel, on va réindexer les résultats de ces règles unitaires dans une base, on utilise Splunk, donc dans un index dédié. Et voilà, et on va pouvoir les réutiliser et ils vont être lus, reçus par les règles de corrélation globale qui vont essayer de les additionner chacun des scores de risque de ces différentes règles unitaires et voir si on dépasse un certain seuil par unité de temps. Ça pourrait être une heure, une semaine, une journée.
Attends, ça veut dire qu'en fait, c'est pas une solution que tu développes à côté qui va s'interconnecter avec ton SIEM qui va récupérer les données qui est sa propre base, mais au contraire, c'est le développement que tu fais entre guillemets sur ton SIEM et qui va se reposer sur entre guillemets les fonctionnalités de ton SIEM, la base de ton SIEM, mais que tu vas enrichir et pour être capable de faire des requêtes en plus et des alertes supplémentaires, c'est ça?
C'est tout à fait ça. C'est au lieu d'envoyer directement dans l'outil des CRP, l'alerte, on va la réindexer et elle va pouvoir être relue derrière par une règle de corrélation globale qui va... Ouais.
C'est ça, en fait, pour le dire autrement, en fait, dans Splunk, on choisit l'action qui va être générée derrière une alerte. On génère des règles et on dit quand on a des événements, ça va générer une action, on peut envoyer un mail, générer un log, etc. Et donc là, on peut créer nos propres applications. Et donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce que Nicolas a fait chez nous. Il a généré une application custom qui en fait traite ce signal-là et le réindexe comme un log avec les bonnes informations, un weak signal hash qui nous sert à dédupliquer, etc., etc. Ça, on peut en parler. Et en fait, on va retraiter comme une règle de corrélation, au-dessus de ça, ces événements qui ont été réintégrés dans le log. Et c'est là la force du modèle. Excuse-moi.
C'est une machine de Turing que vous avez réinventée.
C'est ça, on reprend la base.
Qui s'auto-alimente. Non, mais en fait, c'est-à-dire que quand tu as certains événements, certaines règles, vous avez ce développement, cette application, entre guillemets, qui va s'exécuter, qui va faire des traitements complémentaires et qui va réinjecter dans le Splunk derrière.
Et du coup, on a une base, un index, où tous nos logs, c'est des signaux faibles, et on a des règles qui disent... Je cherche sur une heure tous les signaux faibles et je les groupe par utilisateur ou par machine et je calcule leur score de risque. Et si ce risque dépasse un certain seuil, là j'en génère une alerte. Et cette alerte, elle est en...
Ah oui, c'est pas un truc classique avec je cherche, je sais pas, les comptes qui se sont logués plus de 5 fois, qui sont sur la France et entre 3h et 4h du matin. Là, t'as vraiment, c'est pas juste des vérifications, t'as vraiment un traitement complémentaire qui va faire des recherches sur des informations qui sont indexées en plus. Ouais, d'accord. Ok.
Et Wojtek, tu parlais de challenges spécifiques.
Oui.
Quels sont-ils ?
Il y en a pas mal. Je vais peut-être laisser Nicolas répondre sur cette partie.
L'un des principaux problèmes qu'on a eu, c'était les comportements récurrents. Par exemple, si on a un administrateur qui exécute une commande anodine, donc par exemple WAMI ou NetUse, enfin peu importe, ben, en fait, celle-ci, on va l'avoir avec une règle de corrélation, comme on vient de l'expliquer. Donc, on va avoir un événement qui est indexé. Et ensuite, bah, si cette règle-là vaut 10, et l'administrateur fait 10 fois la même commande, en fait, on ne veut pas que ça se déclenche une alerte, parce qu'en fait, on va juste analyser un admin qui va avoir un admin qui réalise cette commande. Donc, on a pris ça en considération, on a apporté une solution. On a eu aussi, par exemple, pour la même commande, avec des variantes un peu différentes, donc les paramètres changent, les arguments changent, et ça aussi, ça a été un défi, donc on a dû réajuster le risque score pour ce comportement-là. Et on a aussi appliqué un modèle qui permet d'adapter le risque score d'une entité sur le temps. Donc en gros, c'est un process automatique qui est derrière qui va analyser les activités d'une entité, donc host, user IP, et ça va adapter le risque score. Dans les autres problématiques, on a eu aussi les attaques lentes. Donc si l'attaquant, lui, il veut être le plus discret possible et pas lever d'alerte un pour un, comme disait Raphaël tout à l'heure, ça a été aussi un challenge typiquement en nos recherches de détection. Enfin, au global, je veux dire, on connaît tous que les règles tournent tous les quarts d'heure, toutes les 1 heure sur des fenêtres de temps prédéfinies. En fait, la problématique, c'est que si l'attaque commence un peu à grossir en score, entre la 40e minute et l'heure prochaine, et que les événements suivent sur l'heure d'après, en fait, il y aura une coupure parce que la règle fait que ça prend l'heure précédente et pas l'heure glissante. Du coup, on avait ce problème un petit peu. L'autre qui est relativement lié à celle-ci, et comme disait aussi Raphaël tout à l'heure, la puissance du modèle, il faut qu'on voit énormément de comportements associés à une entité. Donc du coup, plus on a de règles, plus on est susceptible de voir plein de petits comportements autour de l'attaquant. Donc c'est nécessaire à ce qu'on ait plein de règles dessus. Une autre problématique, ça a été les adresses IP. Là, c'est pareil, on ne va pas regrouper plusieurs événements entre eux parce qu'on ne sait pas si l'adresse IP, elle n'a pas changé de personne, de poste entre-temps. Donc là, c'est pareil, on a appliqué quelques solutions dessus pour être sûr que les événements soient regroupés par la vraie entité qui est derrière. Et il y a encore deux petites problématiques. Ouais.
En ce qui concerne le... Alors, peut-être je te laisse terminer les exposés et puis on
reparlera après. Les deux dernières, c'est la normalisation des entités. Par exemple, on a aussi le nom utilisateur, on peut le désigner sous plein de formes différentes. L'adresse email ou un alias ou alors le classique domain / le nom de l'utilisateur. Donc c'est pareil, si la valeur elle est pas unique, on va regrouper les événements pas entre eux parce que du coup la valeur de corrélation n'est pas la même. Et la dernière, ça a été d'avoir un affichage clair pour les analystes parce que du coup vu qu'on regroupe énormément d'événements et d'observations, faut pas qu'on noie l'analyste dedans. Donc on a dû imaginer un affichage pour que ça soit clair pour lui et qu'en simple coup d'œil, ça faille.
Et vous avez réussi à adresser tous ces challenges ou il y en a qui restent insolvables, un peu comme la problématique de l'attaque lente? Comment est-ce que vous l'avez résolu?
L'attaque lente, je dirais qu'on y répond mieux que le modèle 1 pour 1, parce que justement, il permet d'y répondre à un certain niveau. Mais on peut toujours bypasser ce modèle en faisant, si tu t'arrives et que tu fais une mini-action qui ne match aucune règle 1 pour 1 et que tu en fais une par semaine, techniquement tu bypasseras le modèle. Mais tu arrives dans un effort qu'il faut mettre en place, une complexité, etc., qui est assez peu crédible. Donc, comme tous les modèles, il y a des bypass possibles, mais je pense qu'il résout plus de problèmes qu'il n'en apporte.
Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez utilisé des règles, on va dire, qui matchent peu souvent pour créer en fait des méta-règles en disant ok, cette règle, le who am I, c'est pas forcément un truc sur lequel on veut lever une alerte, mais si ça arrive toutes les heures pendant une semaine, on veut quand même lever une alerte, quelque chose comme
non,
ça.
Non, justement, c'est un très bon point, c'est une très bonne question, parce que justement, c'est pas ce qu'on veut. Si ça arrive toutes les heures, et ça, c'est une des évolutions qu'on a prévues, c'est que si on voit le même utilisateur faire exactement la même action au cours du temps, bah en fait, on veut que le poids du score baisse dans le temps, parce qu'on va estimer que c'est une action qui est habituelle et répétée, et donc il y a peu de chances que ça soit lié à une attaque. Donc c'est un très bon point. Et ce qu'on veut justement dans le modèle de Weak Signal, c'est identifier un grand nombre de comportements différents liés à cette même machine. Et donc c'est plutôt l'attaquant qui va justement faire un WAMI, puis il va créer une persistance, puis il va essayer de faire des recherches, find password quelque part, puis il va faire un mouvement latéral qui est inhabituel. Et ça, ça rajoute quelque chose d'assez intéressant qui est le concept de baselining et de règles de unusuel. Et en fait, c'est dans le modèle justement de Weak Signal, il y a plein de types de règles qu'on ne pouvait pas mettre en place, que maintenant on peut mettre en place. Et dans ces types de règles, il y a les règles qu'on peut appeler de baselining, que certains éditeurs se permettent d'appeler du machine learning ou de l'intelligence artificielle, mais concrètement, en fait, c'est t'as un comportement et tu vas juste apprendre sur quelques champs l'habitude de ce comportement, et donc dire bah moi je vois toujours ce comportement sur ces 30 machines, je le whitelist concrètement. Et du coup, je vais générer une alerte que sur des machines sur lesquelles je n'ai jamais vu ce comportement. Et on peut faire des choses extrêmement intéressantes qui vont beaucoup aider à contextualiser et à enrichir justement les alertes. Et ça va être, par exemple, on va avoir des règles qui vont dire bah, c'est la première fois que j'ai un lateral movement entre une machine source, une machine destination et un compte. C'est la première fois que j'ai une persistance spécifique dans mon environnement. C'est la première fois que j'ai un process qui est exécuté dans mon environnement. Et en fait, pour un analyste, savoir que tu as une alerte, mais que cette alerte est liée à quelque chose qui est vraiment nouveau dans son environnement, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et important à savoir en termes de contexte.
Alors, moi, j'ai une petite expérience du baselining et ça suppose que ton réseau soit sain, en fait. Et quand tu es dans un réseau de 130 000 machines et que tu commences à déployer une règle, si tu vois des choses, tu n'as aucune idée en fait, de si ta baseline elle est correcte ou pas. Alors qu'à l'inverse, le truc qui trigger des changements, c'est par exemple toutes les mises à jour de Windows. Dès que tu passes un patch sur ton parc ou dès que tu as une update de logiciel, toutes tes baselines sont... Enfin, pas toutes, mais quand Microsoft pousse des choses, on va dire anti-Kerber hosting, anti-rejeu NTLM dans Exchange ou autre, ils vont changer des comportements de base du système qui vont déclencher toutes tes alertes.
Oui, c'est vrai, t'as mis le point sur une limite du baselining. En fait, concrètement, quand tu crées une baseline, tu estimes et tu espères que ce qu'il y a avant, c'était légitime. Ce que tu as jusqu'à maintenant, à l'instant T, c'est légitime. Alors, il y a un risque. Par contre, la réalité, c'est que ces règles que tu vas mettre en baselining, tu ne pourrais pas les mettre en fait sans ça. Donc, du coup, ça serait juste quelque chose que, comme tous les socs, tu fermes les yeux dessus. Donc déjà, tu es toujours mieux que rien. Donc ça, c'est le premier point. Et en fait, c'est même une problématique plus générale. Quand tu fais de la détection, quand tu crées des règles de détection, tu as deux choix. Imaginons que tu vas créer une règle de détection sur du pass the hash. Donc tu vas mettre ta logique et en fait tu vas trouver 400 potentielles alertes. Et donc tu as deux choix. Soit tu passes ton temps et tu passes, je sais pas, deux mois à analyser tout ça et à essayer de t'assurer que c'est tous des faux positifs avant de mettre ta règle en prod et les whitelister. Et du coup, bah, tu crées une règle tous les deux mois. Soit tu assumes tu pars du postulat que tout est légitime, tu whitelist tout et tu peux mettre ta règle en place très rapidement. Donc la différence, en fait, il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix. D'un côté, tu vas avoir des règles très propres et tu vas moins risquer. Donc tu vas faire du threat hunting en fait en même temps que tu crées ta détection. Donc ça a ses avantages, mais tu vas avoir extrêmement peu de capacité à créer des règles, donc tu auras très peu de règles en production à la fin, dans le même temps que l'autre modèle va permettre de mettre beaucoup de règles très rapidement avec un postulat de départ qui peut être faux. Et donc en laissant potentiellement, en acceptant que avant, à T-1, il peut y avoir un malware que tu as whitelisté.
Et puis c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que si tu whitelist entre guillemets une action d'un attaquant, il va jamais se limiter à une action. Donc peut-être que tu vas en louper une sur les 10 qu'il va réaliser, mais les 9 autres, tu auras forcément une règle et tu vas finir par l'avoir comme ça. Donc je pense que c'est pas très très grave d'en louper une, d'en whitelister une de temps en temps.
En complément, on a ajouté une base de certains mots-clés interdits aussi, qui permet de ne pas mettre dans la baseline certains comportements où on sait que c'est un comportement à risque.
Ouais, et on whitelist justement de nos baselines, on whitelist tout ce qui est tout ce qui est pentest, purple team, red team, etc. Et donc ça permet d'éviter ça, mais bon.
Et sans rentrer dans les détails de l'outil commercial que vous utilisez, ça se présente comment? C'est un énorme switch case ou c'est des règles Sigma ou enfin une description YAML quelconque, ou il y a carrément la programmation Python ou C++ derrière pour mettre en place?
En fait, c'est vraiment, nous ce qu'on utilise, c'est juste un YAML, c'est juste Splunk. Il y a Splunk sur lequel on crée des règles de détection normales, en mode 1 pour 1, et donc la règle dit j'envoie un case, en gros je crée une alerte sur mon case manager quand elle génère, et le modèle de WebSignal, c'est exactement pareil, c'est Splunk, sauf que elle va appeler cette application custom, cette application maison, qui va lui régénérer un événement. Et derrière, on fait juste des règles Splunk comme les autres qui font un group by sur des machines, des IP, des usernames et qui calculent en fait ce score de risque global sur une heure, un jour, une semaine. En fait, techniquement, fonctionnellement, l'algorithme, il est très simple.
Oui, alors tu parles de règles Splunk, mais parce que Splunk a un SDK, donc on peut, enfin un kit d'extensibilité, et on peut en fait écrire du code. C'est pour ça que je posais la question, pour savoir si c'était vraiment juste un ensemble de règles basiques à base de group by, etc., ou s'il y avait vraiment du code Python ou C++ écrit derrière, quoi.
Exactement, on a développé une application Splunk avec du Python principalement, et on a ajouté des actions custom et des commandes pour justement faire le modèle de WebSignal.
Et l'application, en fait, ce qu'elle va faire, c'est vraiment récupérer les alertes et en générer des événements. Par contre, la règle qui va s'appuyer sur ces événements pour générer des alertes WebSignal, la règle de corrélation globale, ça, c'est juste une règle Splunk basique.
Du coup, ça vous autorise à faire un peu n'importe quoi. Et moi qui ai cherché de la vie extraterrestre dans le passé, avec SETI at Home, on peut faire des analyses fréquentielles intéressantes sur des gros volumes de données et du coup repérer des motifs, justement. Ce genre de système qui va émettre des beacons à intervalles, enfin tout ce qui est signal modulé, en fait, un signal qui a une fréquence de 0,001 Hz parce qu'il va émettre en fait qu'une fois toutes les heures, c'est quelque chose que tu peux faire avec du traitement du signal.
Comment répondre? Techniquement.
Ce n'était pas vraiment une question, c'était une remarque.
Ok, je te fais confiance. Mais ça dépasse mes compétences pour le coup.
J'ai deux questions sur les challenges que vous avez rencontrés. La première est liée à la normalisation. Comment est-ce que vous avez adressé cette problématique de nom d'entité qui change?
Bah justement, ça en fait partie des points où on parlait de l'application avant, parce que il y a quand même pas mal de choses de notre environnement qui sont développées un peu, enfin qui sont hardcodées en fait. Et c'est ce qu'on utilise pour normaliser les valeurs. Typiquement, on a la liste de nos domaines Active Directory et d'autres patterns qu'on substitue en fait, et ensuite on fait des requêtes vers LDAP, ce genre de choses.
D'accord, donc vous faites un SED en gros.
C'est ça, ouais. On prend la valeur à l'entrée, on essaie de faire une lookup dessus à travers d'autres enrichissements pour essayer d'identifier la personne ou le nom de la machine. Et à partir de là, par exemple, pour l'entité utilisateur, on s'attend que la valeur attendue soit le same account name. Et on est sûr que là, on a affaire avec le même utilisateur.
Et si on voit son adresse email, on va le remplacer par son same account name.
Exactement.
Et le challenge qui est lié aux adresses IP qui changent, donc la machine qui change d'adresse IP, ça c'est sur votre réseau interne ou c'est en lien avec des machines externes?
Principalement que interne, je dirais. Et là, c'est pareil. Quand on a une adresse IP en entrée, on vérifie est-ce qu'on la connaît. Donc, on fait de l'enrichissement, est-ce qu'elle est managée. Et là, en fait, on va, entre guillemets, dire que l'entité finale, c'est le host ou le nom utilisateur. Ce qui réduit au final énormément les adresses IP parce qu'en fait, on arrive, entre guillemets, facilement à identifier. Et le reste, le peu qui reste, c'est soit les équipements réseau ou des machines non managées. Donc, on a peu de faux positifs sur le reste.
Et en fait, on va remplacer une adresse IP par un poste si on peut, par un hostname, et celles qui sont uniquement, en fait, on est obligé par contre de garder que la corrélation sur un temps court, parce que les IP sont très volatiles avec du DHCP et du VPN, etc.
Du coup, ça explique pourquoi finalement vous n'avez pas de plan pour publier ça en open source, puisqu'il y a trop de secrets de sauce à l'intérieur. Et trop de choses personnalisées. Par contre, on peut dire qu'on vous a découvert via un article dans le magazine MISC numéro 129, où vous expliquez un petit peu toutes ces règles et la manière dont vous les avez implémentées. Je pense qu'il y a suffisamment de matière dans cet article pour que des gens intéressés puissent commencer à faire la même chose chez eux.
Alors justement, par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que dans les faits, sur votre SI, ça marche vraiment ?
Alors oui, c'est plutôt très efficace. Ça nous fait des faux positifs, hein, comme toujours. Mais non, on a déjà, je sais pas si c'est une fin en soi, mais tous les pen tests sont détectés. La grande majorité des pen tests sont détectés par le modèle. Les red teams souvent et le modèle est extrêmement efficace. C'est assez intéressant. On a une sandbox sur laquelle on balance des malwares, donc qui est complètement isolé du réseau, où on a tous nos capteurs. Et en fait, c'est vachement intéressant de voir quand un malware générique vraiment est exécuté, l'ensemble des signaux faibles qu'il va générer en quelques secondes, et les alertes énormes avec des dizaines de comportements différents en fait qui va générer, c'est vachement intéressant. Et donc oui, c'est assez efficace au final. Alors comme toujours, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, hein. C'est un puits sans fond la détection, et on n'aura jamais fini et on peut toujours s'améliorer. Mais non, on en est plutôt content. Là, on commence vraiment à ressentir vraiment la puissance du modèle, en sachant que vraiment, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la problématique de ce modèle-là, c'est que il est vraiment efficace une fois qu'on a plusieurs centaines de règles de détection qui tournent sur ce modèle, quoi.
Ça vous a coûté combien de jours, homme ?
C'est très difficile à dire.
Oui, mais entre 10, 100, 1000 ?
Bah, plutôt ça dépend. Si on prend juste la logique de développement de l'application et des règles de détection globales, je pense que c'est plutôt 50. Si on prend toutes les règles de détection weak signal qu'on a générées derrière, là on est plutôt sur plusieurs centaines.
Bah oui, il faut intégrer la mise au point.
Clairement. Bah du coup plusieurs centaines de. Mais c'est la détection. De toute façon, une équipe qui fait du SOC a besoin de passer, d'avoir plusieurs FTE à plein temps sur la détection.
Ah, c'est le cœur de son métier, en tout cas, ça devrait l'être.
Ok, est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin ?
Je sais pas, Wojtek, Nico, vous avez un truc à dire ? Genre, faites du weak signal ?
Bah exactement, que c'est vachement. Enfin, on a vu en mettant ça en place que ça apporte vraiment une plus-value. Comparé au modèle traditionnel d'avant, comme on
l'explique. J'ai une question justement sur fait du weak signal. Donc en fait, on parle d'un modèle depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un référentiel quelque part
Alors, le modèle, c'est intéressant. Le modèle de weak signal, ce n'est pas nous qui l'avons créé. Il y a plusieurs éditeurs pro qui l'implémentent. Ou se base complètement dessus, d'ailleurs. Et d'ailleurs, Splunk, dans leur suite Enterprise Security, propose un modèle qu'on appelle RBA, Risk Based Analysis, qui implémente le modèle de weak signal. En fait, c'est un modèle équivalent, donc qui s'appelle Risk Based, mais c'est l'équivalent. Et donc nous, on a choisi par contre de se baser et donc de redévelopper notre propre approche pour gérer les problématiques à notre façon, quoi.
Ok, bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs.
Merci à vous.
Au revoir.
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.